Radio Open FM. L'Europe et nous, info, histoire et actu. Plongez au cœur de la culture européenne avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.
Nous retrouvons Marie-Lou et Justine de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
La dernière fois, vous nous avez présenté la littérature en Europe. Aujourd'hui, nous continuons de voyager et surtout de rêver avec l'arrivée des fêtes de fin d'année. J'ai cru reconnaître mon beau sapin.
Exactement, et c'est la version originale. Pour débuter cette chronique, on trouvait ça chouette d'entendre ce chant de Noël emblématique. Cette chanson, O Tannenbaum, sapin en allemand, a été traduite dans toutes les langues. À l'origine, elle n'était même pas directement liée aux fêtes de fin d'année, puisque les paroles ne se réfèrent pas spécifiquement à Noël, ou elles ne décrivent pas non plus un arbre décoré. Au lieu de cela, elle met plutôt en avant les qualités du sapin, avec ses épines persistantes, comme un symbole de sagesse et de fidélité. On l'a associé à l'arbre de Noël au début du XXe siècle.
Et justement, en Allemagne, les fêtes commencent dès début décembre.
Oui, c'est cela. D'ailleurs, dans ce pays, connu pour ses nombreux marchés de Noël, on y retrouve un grand personnage aussi emblématique que le Père Noël. En effet, il distribue ses friandises, mais peut aussi envoyer un père fouettard si on n'a pas été sage. Il s'agit donc du Saint-Nicolas. Et figurez-vous que sa tête ne se limite pas à l'Allemagne. On le retrouve également en France, donc en Lorraine ou en Alsace, en Belgique, ainsi qu'en Europe de l'Est, donc en résumé, une vraie superstar. Alors laissez-nous vous faire découvrir l'histoire fascinante de ce personnage légendaire et les traditions qu'il a inspirées à travers toute l'Europe. Donc Saint-Nicolas, c'est avant tout une figure historique, mais ce qui le rend si populaire, c'est surtout une légende assez folle des trois enfants ressuscités. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais imaginez trois enfants égarés trouvant refuge chez un boucher qui, malgré son air bienveillant, les découpe avant de les mettre dans un saloir.
Alors, comme ça, on se rapprocherait plus d'une histoire d'Halloween quand même, hein ?
Oui, c'est cela, mais en effet, 7 ans plus tard, Saint-Nicolas passe par là et souhaite déguster ce fameux plat. Mais connaissant le secret de fabrication de cette viande atypique, il commande le plat, mais en réalité, il ressuscita ses trois enfants. Donc une histoire sombre, comme vous pouvez le penser, mais qui renforce son image de protecteur des enfants. Alors malgré cette légende, les traditions européennes qui les mettent en scène varient à travers toute l'Europe.
Et oui, en effet, ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir comment Saint-Nicolas a été réinterprété dans différents pays européens. Aux Pays-Bas, par exemple, il devient Sinterklaas, un personnage qui arrive en bateau depuis l'Espagne, reflétant le passé maritime du pays. Il est accompagné de ses assistants, les Pitten, et distribue des cadeaux aux enfants. En Allemagne, le 6 décembre est célébré comme le Nikolaustag. Les enfants mettent leurs bottes devant la porte et selon leur comportement, ils y trouvent des friandises ou une branche en guise d'avertissement. En Europe centrale, Saint-Nicolas parcourt les rues accompagné d'un ange et d'un diable. Il récompense les sages, mais le diable, lui, n'hésite pas à faire la morale aux plus turbulents. Donc comme vous pouvez le remarquer, Saint-Nicolas est toujours accompagné de ses assistants qui jouent le rôle du père fouettard pour les enfants qui n'auraient pas été sages. Et sachez que le Saint-Nicolas est à l'origine de bien nombre de traditions et de personnages actuels. Il est même à l'origine de la figure du Père Noël qui a ensuite été exportée par les Néerlandais vers les États-Unis et qui a été popularisée sous le nom de Santa Claus.
Ah, Santa Lucia, mais qui est-elle ?
Alors la Sainte Lucie, c'est une fête des Lumières suédoise qui fait partie intégrante de la culture et qui occupe une place très importante au sein du folklore de ce pays scandinave. Alors elle est vieille de 400 ans et cette tradition prend place le 13 décembre et tient son origine dans la religion chrétienne.
Mais pourquoi le 13 décembre en particulier ?
Alors parce que c'est historiquement le jour le plus court du calendrier julien, utilisé jusqu'au XVIe siècle. Donc la nuit est donc à l'inverse très longue, et c'est un terreau fertile pour faire apparaître des esprits maléfiques qui rôdent sur les routes, donc cela rend les sorties très dangereuses ce soir-là. Il fallait donc rester éveillé pour éviter les soucis et manger aidait à se réconforter et à faire passer le temps. Et d'après la légende, une certaine Lucie distribuait des vivres aux chrétiens, se cachant dans les catacombes romaines. Et cela éclairait le chemin avec une couronne de chandelles sur la tête. Donc cet événement commémore le martyre de Lucie de Syracuse, donc une vierge issue d'une noble famille qui aurait refusé son amour à un homme qui, fou de rage, lui aurait arraché les yeux. Et depuis, il est dit que Lucie aurait la capacité de guérir les maladies oculaires.
Et d'ailleurs, depuis, cette fête s'accompagne d'une procession appelée en suédois le Lucitag, réunissant des personnes vêtues de blanc, menées par Lucie elle-même et qui défilent sous l'air de la musique que vous venez d'écouter à l'instant. En plus de porter la lumière, le rôle de Lucie est de distribuer des bonbons dans des paniers. On y trouve aussi des brioches au safran en forme de S, que l'on appelle Lussekatt, aussi connu pour les Suédois que nous avec les croissants. Pour éloigner le diable qui craignait la lumière, Jésus eut l'idée de colorer ses pains avec justement du safran, et les petits pains désormais lumineux ont effrayé Lucifer. Et ces viennoiseries sont souvent accompagnées de petites tasses de glögg, un vin épicé avec des amandes et des raisins secs. Bien qu'ancrée dans la tradition, Lucie est une cérémonie en permanente évolution. Par exemple, au niveau alimentaire, elle distribue désormais de la nourriture alternative végane.
Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les traditions s'adaptent aux évolutions de nos sociétés et ne restent pas figées dans le temps. Alors continuons donc avec les autres festivités notables en Europe.
En effet, partons vers l'Italie où la veille de Noël, autrement dit Vigilia, est un repas spécial pour les Italiens, car la tradition du souper de Noël exclut la viande. Donc ce repas féerique date de l'époque de Jules César et marque la nuit de Noël. Donc bien que l'idée générale soit de préparer un repas maigre et particulièrement austère, de nombreuses familles se retrouvent avec un nombre impressionnant de plats, allant même jusqu'à 7 mets différents. Et à certains endroits, on l'appelle la fête des 7 poissons. Donc chez les Italiens, on retrouve la sorcière Befana, qui passe dans chaque maison où vivent des enfants la nuit précédant l'épiphanie qui se déroule le 6 janvier. Donc ces derniers accrochent une chaussette, pas loin de la cheminée ou de la fenêtre, et pour ceux ayant été bons et gentils tout au long de l'année, la Befana leur dépose dans leurs chaussettes des caramels ou des chocolats.
Alors, Justine vient juste de parler de la coutume de manger du poisson à Noël chez les Italiens, mais cette tradition se retrouve chez les Tchèques, figurez-vous. Et la star du menu est la carpe frite. Alors, c'est peut-être pas la première chose à laquelle on pense en tant que mets local, mais elle a certainement son charme et sa tradition propre, puisqu'ils achètent leur carpe juste avant Noël, elles sont vendues dans des bassins d'eau, et ils la conservent en vie dans, tenez-vous prêt, dans leur baignoire, jusqu'à ce qu'il soit temps de la préparer et de la manger. Alors tradition qui, vous vous doutez bien, a du mal à garder sa place aujourd'hui avec notamment la défense du bien-être animal, ou même certaines entreprises renoncent à vendre les carpes vivantes pour le repas de Noël, pour leur assurer une mort dans les règles et par la main d'un professionnel.
Et maintenant, en Slovénie, on retrouve cette origine chrétienne dont l'on parlait, avec la possibilité de visiter une crèche vivante géante dans la grotte de Postojna. Donc cet événement, tout aussi féerique que captivant, réunit plus de 100 comédiens locaux accompagnés de musiciens qui préparent chaque année un merveilleux spectacle de Noël dans les entrailles de la terre. Donc 18 scènes tirées de l'histoire biblique se répartissent le long des 5 km de chemin touristique éclairé. Et les 3 premiers kilomètres et demi se parcourent depuis le train et la deuxième partie en marchant. Et il s'agit donc de la plus longue grotte touristique d'Europe qui s'est transformée en conte de fin d'année.
Et vous vouliez terminer cette chronique par une musique.
Oui, comme on a commencé, et c'est une musique portugaise qui s'apparente à une berceuse. O Menino Está Dormindo, un chant de Noël portugais datant du XVIIIe siècle et qui est chanté devant toutes les cheminées du pays. La plupart des Portugais le considèrent tout simplement comme le plus beau chant de Noël européen. Et nous vous laissons donc sur cette belle mélodie où les anges chantent pour ce garçon endormi couché dans la paille. Et on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Bonne fête.
O menino está dormindo nas palhinhas deitadinho. O menino está dormindo nas palhinhas deitadinho.
C'était l'Europe et nous. Infos, histoires et actus autour de la culture européenne. À retrouver chaque semaine avec la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin, 51 avenue Georges Dumas à Limoges. 05 55 32 47 63 et sur le www.europe-limousin.eu.